Maud Kessar, bonjour.
Bonjour Sylvie Noël.
Les manipulations de l'information ont toujours existé, mais aujourd'hui elles prennent une ampleur particulière en raison du développement des réseaux sociaux. Et dans le titre de cet ouvrage collectif que vous co-dirigez, « Guerre de l'information à l'ère numérique », il est finalement intéressant de noter que se juxtaposent deux réalités, les guerres de l'information qui semblent nous replonger dans la guerre froide et puis « ère numérique ». Qui est finalement le terme désormais clé dans cette problématique. C'est en effet cette révolution qui a donné aux anciennes guerres de l'information une nouvelle dimension. Pourquoi ?
Absolument. Ce que nous abordons dans le livre, c'est cette rupture stratégique que constitue l'ère numérique dans la dimension qu'elle donne donc à ces guerres de l'information. Cette rupture stratégique, elle se caractérise par des phénomènes effectivement d'amplification que vous avez noté, et aussi par le fait de mener des guerres à moindre coût avec un impact qui est beaucoup plus élevé. Et puis surtout, au-delà des acteurs étatiques, on comprend que les acteurs privés, que ce soit des entreprises ou des individus, ont un rôle important à jouer donc dans ces nouvelles formes de conflits numériques.
Alors vous parliez de rupture stratégique et ça consiste en plein de choses, hein. Et on a donc le développement des réseaux sociaux, les plateformes numériques, cette information qui devient immédiate et globale, et puis la barrière entre producteurs d'informations et consommateurs qui s'estompe.
Absolument. C'est la relation aussi entre producteurs d'informations et consommateurs, parce que le consommateur d'informations devient lui aussi acteur. Donc c'est un processus un petit peu renversé. Et nous, ce qu'on examine dans le livre, c'est aussi la façon dont les États produisent de l'information et l'utilisent pour leur communication stratégique dans le cadre d'opérations militaires ou diplomatiques. Dans ce processus-là, eh bien, les États doivent tenir compte de la réaction et de l'interaction avec les cibles visées, si je veux m'exprimer en termes plus militaires. Mais l'idée de cible stratégique, on peut aussi la retrouver dans un domaine plus civil.
Et si on reste sur le terrain militaire, est-ce que ce bouleversement technologique a aussi modifié la façon pour les armées d'appréhender les guerres ?
Alors, la première rupture que l'on donne, elle date donc de la première guerre du Golfe, où vraiment l'armée américaine utilise finalement l'information non pas comme un talon d'Achille comme ça a pu être le cas durant la guerre du Vietnam, mais plutôt comme un atout, et passe à la numérisation. Donc là, il y a une façon d'appréhender la guerre et les outils informationnels différemment. Si on fait allusion à la guerre du Vietnam, c'est parce que l'information n'était absolument pas contrôlée. Donc fort de cette expérience, ils embarquent des journalistes attitrés qui les suivent dans cette guerre du Golfe où, si vous vous rappelez, l'information là est très contrôlée. Et ce qui est diffusé, ce sont plutôt des images de frappes dites chirurgicales à l'époque où on ne voit rien, et ce ne sont pas des corps que l'on ramène dans des hélicoptères pour vous donner une image de contraste avec ce que l'on pouvait voir pendant la guerre du Vietnam. Et puis aujourd'hui, comme je le rappelais en préambule, le fait d'avoir des guerres de l'information numérique auxquelles tout le monde peut avoir accès permet à des petites puissances d'être des acteurs efficaces, puissants ou menaçants dans ces nouvelles guerres de l'information. Très concrètement, on le voit dans l'ouvrage, on peut avoir des États comme l'Iran ou la Corée du Nord qui vont avoir une puissance de frappe informationnelle intéressante, et donc ça modifie un petit peu aussi ce qu'on appelle les conflits de la zone grise, c'est-à-dire qui se mènent en dessous du seuil de la guerre totale, qui ne sont pas des conflits ouverts, qui ne sont pas forcément des conflits de guerre froide non plus, mais qui sont des conflits entre les deux. Et dans ce type de conflit, l'élément informationnel est très important.
Alors, vous parliez de la Russie, de l'Iran. Il y a effectivement des États autoritaires qui utilisent l'arme de l'information, mais les démocraties aussi peuvent utiliser cette guerre de l'information. Mais dans votre livre, vous insistez sur le fait que cette nouvelle ère a révélé des fragilités, des vulnérabilités pour les démocraties face à l'ère numérique. Pourquoi sont-elles plus fragiles que les États autoritaires ?
Alors, c'est un petit peu en fait l'effet boomerang de la révolution d'Internet qui avait dans un premier temps séduit beaucoup d'observateurs et de partisans donc de la mondialisation de l'Internet en pensant que c'était un accès formidable au savoir. Mais c'est aussi finalement un régime pluraliste, la possibilité pour tous de s'exprimer, d'avoir des canaux de diffusion. Ça rappelle un petit peu des préoccupations qu'on pouvait avoir aussi durant la période de guerre froide. enfin au moment des accords d'Helsinki, on voulait faire circuler absolument les hommes et les idées, mais Internet aurait pu permettre ça, mais l'effet pervers pour les démocraties, c'est que si tout le monde s'invite dans le débat public et si tous les canaux sont ouverts, eh bien, ça crée des fragilités. Donc ça, c'est le cas de ce que l'on peut observer dans les phénomènes de désinformation qui bouleversent la vie de nos démocraties occidentales. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu aussi en France ou dans d'autres pays européens. Donc ces phénomènes de vulnérabilité, ils sont plus propres aussi aux États démocratiques parce que si l'on regarde un peu des aspects un petit peu plus techniques de ces guerres de l'information, on voit que les États autoritaires ont essayé de créer des systèmes Internet autonomes, ces murs de l'information aussi, c'est pour ça que je parlais d'Helsinki pour donner une petite image, ou ces murs de l'Internet, puisque dans les États autoritaires, on n'a pas une libre circulation de l'information par les réseaux qui sont contrôlés par les régimes autoritaires comme la Chine ou la Corée du Nord, qui en est l'exemple peut-être le plus caricatural qui est donné dans le livre, l'Iran, la Russie n'est pas bien sûr à cette idée ou cette problématique-là. Donc finalement, les États autoritaires ont su recréer des murs de l'Internet, même cyber, pour pallier à toute vulnérabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inattaquables, mais de ce point de vue-là, ils sont moins vulnérables que les États démocratiques.
Pour parler concrètement, la Chine, par exemple, a dès le départ verrouillé le développement du réseau numérique dans le pays.
Absolument. Et c'était une des ambitions, si vous vous rappelez, de l'administration Obama, première administration, qui voulait faire tomber les murs de l'Internet et développer le numérique. Les GAFAM qui voulaient essayer de saisir de nouveaux marchés, de faire tomber les murs de l'Internet, y compris dans certains régime autoritaire.
Et concernant la Chine, Valérie Niquet a écrit dans votre ouvrage que le concept de guerre de l'information est en fait au cœur de la pensée stratégique chinoise.
Le concept de guerre de l'information, et c'était tout l'intérêt du livre, c'était de montrer qu'en fonction des États, qu'ils soient démocratiques ou autoritaires, eh bien, le sens n'est pas le même. Et finalement, l'État qui développe le plus l'idée de guerre de l'information et qui l'a fait sienne en parlant d'espace informationnel, plus que la Chine encore, c'est la Russie. Et on comprend que ces concepts clés circulent entre les États autoritaires, Chine, Russie, mais aussi entre les États démocratiques et les États autoritaires. Donc ça veut dire qu'il faut faire un petit peu de sémantique et savoir qui parle de quoi, car ce sont aussi des concepts qui peuvent devenir un petit peu fourre-tout, sachant que l'État qui a le plus développé le concept de guerre de l'information en essayant de l'articuler autour de réalités un peu plus concrètes, c'est sans doute l'État américain avec une réflexion qui a été menée au Congrès. Pour les Chinois, c'est un petit peu différent et beaucoup plus centralisé.
Dilemme cornélien pour les démocraties. Peuvent-elles, en temps de paix, utiliser les armes de leur adversaire sans nier leur valeur ?
Alors c'est une question effectivement que les Américains se sont posés assez tôt, était l'objet de beaucoup de débats au cours du long XXe siècle. Je dirais que c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, non pas que les États-Unis revendiquent le fait de faire de la propagande, absolument pas, mais aujourd'hui l'information est considérée aux États-Unis comme un des piliers de la puissance, donc l'information ce n'est pas de la propagande, l'information c'est la gestion et le contrôle d'un certain nombre de données, d'un narratif aussi pour les États-Unis qui est diffusé à l'étranger, que l'on pourrait peut-être parfois associer à de la propagande, mais quand il n'est pas utilisé dans un contexte de zone de guerre ou de théâtre d'opération bien spécifique, s'il n'y a pas de manipulation, ça ne rentre pas dans l'escarcelle de la propagande comme on pouvait l'entendre au siècle dernier, c'est-à-dire au XXe siècle.
Vous pouvez nous donner un exemple de ce narratif ?
Les premiers porte-parole de ce narratif devraient être le président américain. Avec les 4 ans de président Trump, on a compris qu'il y avait eu des brouillages dans le narratif national. C'est-à-dire que le narratif national n'était pas représenté par les tweets du président, il était plutôt porté parce qu'il a pu rester de l'administration américaine au département d'État. Avec l'administration Biden, on a peut-être un retour à un narratif national plus cohérent qui s'articule dans la grande tradition de la politique étrangère démocrate autour donc d'un retour de la diplomatie des valeurs et des droits droits de l'homme et cela fait partie du narratif national concrètement.
L'autre volet important dans cette guerre de l'information, c'est le contrôle des données. La puissance d'un État, finalement, dépend aussi désormais de sa capacité à accumuler des données.
Oui, en effet, le contrôle du big data, c'est un des enjeux des guerres de l'information de l'ère numérique et c'est sans doute ce qui fait aussi la spécificité de ces guerres de l'information d'un nouvel âge ou d'une nouvelle ère. Et la question n'est pas tant de savoir si on collecte beaucoup de données, comme ça pourrait être le cas pour l'État chinois, mais de la capacité des États à trier ces données et à les utiliser à des fins stratégiques, géostratégiques, diplomatiques ou commerciales.
Concernant le contrôle des données, quels sont les pays actuellement qui ont cette capacité?
Alors, mesurer les capacités des États à engranger du big data, c'est très difficile, de même qu'il est difficile de mesurer les capacités cybernétiques des États. On a une petite idée, mais on ne peut pas donner un palmarès précis des États qui sont le plus à même d'engranger de la data. Les Américains ne sont pas forcément loin dans ce processus-là, mais ils ne sont pas tout seuls. Et si on voulait donner une idée, on penserait concrètement sans doute aux puissances traditionnelles que sont la Chine et les États-Unis, sans doute la Russie, mais il ne faudrait pas oublier des puissances plus moyennes mais très développées sur ces questions comme Israël, par exemple.
Merci beaucoup, Maud Kessar.
Je vous en prie, merci Sylvie Noël.